Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Salut à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM Radio Campus Paris. C'est RNG, RNG saison 3 Radio and Gaming. Je suis toujours en compagnie de mon ami et collègue Ulysse Combasson. Comment ça va?
What? Ça va très bien et toi, Sui?
Ça va super, on est de retour après 3-4 mois, depuis juin. Depuis juin, putain, ça fait un bail. Ouais. Et on est de retour au max sur cette saison 3 de Radio and Gaming RNG. Et je suis trop content. Et non, vous ne rêvez pas. Si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, l'épisode fait bien une heure à peu près, 59 minutes. Mais c'est pas un hors-série, c'est un épisode habituel parce que Breaking News, ça va être la nouveauté à partir de maintenant chez RNG. Les épisodes feront maximum 59 minutes. C'est-à-dire, on va toujours être dans ces alentours-là d'une heure, des épisodes d'une heure. Et pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que c'est pour être plus flexible, tout simplement, beaucoup plus flexible, parce qu'il y a eu pas mal de sujets, par exemple la saison passée, qui ont mérité des hors-séries, c'est-à-dire demander un créneau d'une heure à la radio, par exemple, je pense à Disco Elysium, tout simplement. C'est un peu compliqué de parler de Disco Elysium en une demi-heure. Donc il y a eu pas mal, vous le voyez pas, mais le nombre de fois où en montage on a dû retirer des moments parce qu'il fallait qu'on passe à la radio, tu vois, il y a des règles, c'est bête. Je m'excuse aux frérots de chez Une Heure et des Pixels, où à chaque fois ils passaient après nous, le nombre de fois où, on a dû mordre sur vous, désolé les refs, mais là maintenant, on passe, je crois que c'est les samedi 18 octobre. RNG, Radio Campus Paris, on est de retour. Et Ulysse, peut-être, je sais pas si t'as quelques 2-3 mots à balancer avant le début du
jeu. Bien évidemment, vu que je suis un peu le technicien de l'émission, un peu amateur quand même, et bénévole bien évidemment, ça fait que on parle beaucoup de la Radio Campus Money, mais elle est pas folle. Et du coup, la saison 1, techniquement, on était, je pense, très satisfait du niveau sonore, du mixage. En fait, je mettais beaucoup de travail dessus. Mais la salle et la disposition étaient hyper arrangeantes, tout simplement. On n'avait pas beaucoup de déco avec les deux micros qu'on avait. Et pour être tout à fait transparent, vu que j'ai déménagé il y a un an, on s'est vite rendu compte que mon nouvel espace, qui est donc mon bureau, là où on enregistre RNG, est un petit espace avec du coup des murs assez nus. Et ça fait que pour la réverb, c'est hyper compliqué à traiter. Donc là, l'objectif de cette saison 3, de nouveaux micros, peut-être acheter des mousses pour vraiment qu'on ait un son hyper quali, hyper clean. Dans tous les cas, on va toujours faire en sorte pour, peu importe votre écoute, à la radio ou Spotify sur une plateforme, ça soit le plus propre possible. Mais donc là, cette année, l'objectif, c'est...
Dès l'épisode 2, je pense. Dès l'épisode 2, d'avoir
2,
un nouveau setup.
Et même celui-ci, je vais essayer de me chauffer là pour le mixage, que vous ayez une version vraiment hyper agréable dans les oreilles.
Parce que c'est un peu le set de qualité qu'on va essayer de viser pour cette saison 3. Ça va être du coup des sujets d'une heure, donc vraiment... des sujets qui vont être vastes, sur lesquels on va avoir du coup le temps tout simplement de faire des analyses et essayer d'aller vraiment au bout,
même
de
se poser, de parler, d'échanger.
Tout simplement.
Un des trucs qu'on faisait un tout petit peu sur les derniers épisodes un peu long, de se poser des questions, de finalement au-delà de l'analyse se dire mais nous comment on ressent ou comment on sent vis-à-vis de telle ou telle chose, nos pratiques de jeu, tu vois, choses comme ça. Je veux dire, on va pouvoir un peu s'étendre, un peu plus parler de nous. Je pense qu'on le fait déjà avec nos points de vue, mais de vraiment parler, nous, en tant que joueurs, comment on vit, en fait, aussi ce médium.
C'est ça, laisser un peu plus de place à notre personnalité et derrière, sans être dans le rush, parce que quand on a des épisodes de 30 minutes et que, on veut un peu tout mettre, parfois, on doit faire quelques sacrifices et on s'est dit, Donc, mais sinon, épisode du jour, sujet du jour, je vais laisser Ulysse introduire le sujet. Du coup, la technique, c'est quoi? Ça se mange? Vas-y, éclaire-nous.
La technique. En effet, c'est le sujet qu'on a choisi pour la rentrée de RNG, donc pour cette saison 3, quand même, pour le premier épisode un peu symbolique. Et la technique, je me suis demandé, quand on allait aborder là le sujet, c'est comment la définir ? C'est quoi la technique, justement ? Comment on définit la technique et dans le jeu vidéo ? Parce que, techniquement, la technique, pardon, si on regarde les définitions dans Larousse et tout, justement, bah, la technique, ça concerne les procédés de travail de n'importe quel artisanat. Genre, c'est comment on arrive à un résultat fini, à un objet et tout. Et donc là, si on parle de procédé de travail et de technique dans le jeu vidéo, on va parler moteur graphique, méthode de rendu 3D, sonore, de la programmation, de tout ce qui aboutit finalement au produit final, à l'œuvre et au jeu. Mais ce qui va nous intéresser ici, au-delà de ces petits trucs un peu bah, justement techniques, ces détails-là un peu spécifiques, c'est la perception publique qu'on a de la technique dans le jeu vidéo et les débats que ça a suscité. Donc vu qu'on a une heure, je me dis autant présenter un mini plan. C'est pas vraiment dire « Ah, on va faire partie 1, partie 2, partie 3
».
Mais je pense qu'on va commencer en parlant un peu de bah, l'évolution de la technique et surtout les attentes des joueurs sur PC et console. Je pense que ce qui est bien quand on va pour introduire cet épisode, pardon, c'est d'avoir conscience qu'on parle pas de technique de la même façon de la technique avec n'importe qui. Si vous parlez à un joueur console de technique, il va pas avoir du tout les mêmes attentes.
Il aura un rapport différent.
Ouais, il aura un rapport différent, exactement. Et du coup, ça, c'est un peu comme si tu évoquais deux mondes. Si tu parles à un mec sur PC de technique, il va avoir un peu ses a priori. Et de même, tu parles à un mec sur console ou un mec sur Switch ou je sais pas, sur téléphone, c'est pas du tout les mêmes aspirations et tout. Et donc, ouais, c'est... je pense qu'on peut commencer un peu en parlant de ça. Après, je sais pas si toi, c'était là-dessus que tu voulais commencer, Swill, mais...
Bah, on peut commencer là-dessus. Après, moi, je sais que, comme tu l'as très bien évoqué au début, moi, c'était la raison pour laquelle je voulais... Il me semble que c'était moi qui a dit « on fait la technique ».
Ouais, c'est toi qui as dit que tu voulais la technique.
Parce que moi, je voulais vraiment me baser sur le rapport qu'entretiennent les joueurs à la technique. Je veux dire, RNG classique, c'est-à-dire analyse moderne un peu, analyse actuelle du jeu vidéo... Mais du coup, voilà, essayer d'analyser un peu le rapport qu'entretiennent l'industrie et les gamers vis-à-vis de la technique, parce que ça explique pas mal de comportements, pas mal de débats. Je veux dire, moi, c'est un truc que je vois, j'ai l'impression, beaucoup plus dans le jeu vidéo que ce soit dans le cinéma ou dans la musique. La technique a une place beaucoup plus importante dans le jeu vidéo que nulle part ailleurs, j'ai l'impression. C'est-à-dire le rapport au graphisme, le rapport. Parce que comme on est sur une technologie qui évolue constamment, qui est très jeune, il y a eu un gap, le progrès technique, la vitesse à laquelle les progrès techniques ont évolué dans le jeu vidéo en 40 ans à peu près, on va dire, 35-40 ans.
Ouais.
C'est vraiment le jour et la nuit. Je veux dire, on prend des jeux d'il y a 25 ans à comparer à ceux d'aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a vraiment, j'ai l'impression, dans moi, mon rapport au jeu vidéo, j'ai l'impression que tout ce qui est genre débat autour des graphismes, ce genre de choses, j'ai l'impression qu'ils sont plus au centre du débat que ne peuvent être, je sais pas moi, peut-être les débats, je sais pas, sur la CGI dans le cinéma à Hollywood, ce genre de choses. Après, c'est mon point de vue. Je dis pas que c'est le cas ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus sensible comme débat, j'ai l'impression.
Je pense que c'est un sujet qui est plus sensible au sens où le grand public s'en est emparé là ces dernières années. Là où dans le cinéma, entre guillemets, je dis pas que les gens s'en fichent, mais oui, si vous parlez à des cinéphiles, ils vont se poser la question de comment est tourné le film, est-ce que les FX y passent ou pas, est-ce qu'on a utilisé la sphère de Disney qui est utilisé pour The Mandalorian ou du fond vert. Dans le jeu vidéo, ce qu'on aperçoit dernièrement, c'est que les joueurs ont les attentes vis-à-vis du rendu final, mais du coup, ils ont une compréhension de ce qu'ils voient qui est assez erronée. Je pense que c'est là-dessus qu'on va essayer de monter dans la deuxième partie quand on aura un peu défini la technique. C'est pourquoi tout le monde y va de son grain de sel pour dire aux développeurs, non mais en fait, faites pas de ray tracing, votre jeu il devrait fonctionner comme ça, pourquoi vous utilisez pas le Decima Engine de Death Stranding et de Horizon Forbidden West ?
C'est pas aussi simple que ça.
Voilà, et c'est pas aussi simple que ça.
Et je pense que ça va être peut-être excuse-moi de te couper, je pense que ça va être
vas-y.
L'une des phrases les plus importantes de ce sujet, c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, ça va être surtout un épisode où on va beaucoup déconstruire pas mal de choses, en fait, d'idées reçues, et je pense que c'est ça qui va être assez intéressant, je pense.
C'est ça. Et en fait, de façon très brève, ouais, si on doit parler d'attentes et d'évolution des attentes, le PC, c'est la plateforme, on a déjà fait un épisode dessus, donc on va être très bref, je vais être très bref, où le 60 FPS a été démocratisé le plus vite. Genre, dès les années 2000, à partir du moment où il y a eu des cartes graphiques un peu plus performantes et du jeu en ligne et multijoueur et compétitif sur du Quake, Unreal Tournament et tout, le 60 FPS c'était genre ok, tu joues à un jeu, t'as besoin d'avoir une fluidité folle. Avant ça, il y en avait aussi sur les bandes d'arcade, il y avait vraiment des conditions de jeu assez folles. Mais il faut se dire que l'expérience console, ça a toujours été celle qui était tronquée. Ça a toujours été l'expérience où, ah, si tu joues chez toi, ça sera forcément de moins bonne qualité. On en a déjà parlé, je crois, quand on a fait une évolution sur le jeu vidéo, où on évoquait les gamins qui voulaient jouer à Pac-Man, qui faisaient caler dans les salles d'arcade. Ils rentraient chez eux en disant « Maman, j'aimerais jouer à Pac-Man ». Ils disaient « On a Pac-Man à la maison ». Et c'était une petite machine de merde, en fait,
qui faisait une version rabais. C'était éclaté.
Et du coup, ça a toujours été ça. C'est salle d'arcade, puis PC. C'est là où on était à la pointe de la technologie et donc avec le plus d'exigences en termes de rendu visuel et de confort de jeu. Sur console, ces exigences-là, en fait, on les a eues, je pense, que très dernièrement. Parce que si tu prends la PS2, c'est une console où il y avait beaucoup de jeux à 60 FPS.
Oui.
C'était assez. Donc c'était hyper agréable de jouer. Mais on a tout de suite régressé avec la génération PS3 360. En fait, il y a eu vraiment un gros bond en avant avec l'Unreal 3 et beaucoup d'éléments dynamiques dans les jeux vis-à-vis des lumières, des éclairages.
On a eu beaucoup de progrès techniques lors de cette génération-là.
Et des effets donc dynamiques et volumétriques qui prenaient énormément de ressources. Et du coup, beaucoup de jeux sont passés à 30 FPS avec la HD en plus. Tu passes de la 480p SD à du 720p, 1080p même. Donc 2-3 fois la résolution, enfin, c'était fou. Et en effet, du coup, les joueurs se sont habitués à cette génération-là. Même moi, en fait, comme Swill, on a grandi avec cette génération de consoles où n'importe quel jeu solo à peu près joli, Uncharted, The Last of Us, Red Dead Redemption, je sais pas quel autre titre là comme ça impressionnant, mais...
Gears...
Était à 30 FPS.
Mm-hmm.
Les seuls jeux à 30 FPS, et je pense que ça a participé à leur popularité, c'était certains multijoueurs du style Call of Duty.
Ouais.
60 FPS sur console, mais c'était pas démocratisé, et la Xbox One et PS4, c'est la génération où on s'est dit, ah, le 1080p 60 FPS pour la gêne, ça a même pas été atteint.
Ça a été le pari, en fait, de cette gêne-là, et à la fin, on a eu quoi, je veux dire, même en début de gêne, on avait, je crois, de la 900p, on se retrouve en 900p, PS4, ouais. Avoir des jeux qui tournent en 60 FPS, c'était assez rare, c'est-à-dire, en fait, depuis un peu la gêne PS3, pour englober un peu ce que tu dis, c'est en fait, on a eu d'énormes progrès en termes de graphisme, de technique, ce genre de choses, vraiment des révolutions techniques qui permettaient pour les développeurs. Moi, je me souviens, par exemple, Ubisoft, quand, je crois que c'était pour Assassin's Creed Unity, ils disaient « Ouais, regardez, on a embauché tel nombre de personnes pour genre modéliser la cathédrale de Notre-Dame. Ouais. » Aujourd'hui, ça se fait en 2 secondes. Tu vois, genre, par exemple, pour vous illustrer un peu les bons techniques qu'on fait, mais à l'époque, c'était vraiment un truc « Regardez, on peut le faire. » Far Cry 3, je me souviens, Far Cry 3, pareil, genre jeu hyper Crysis et tout, je me souviens des jeux comme ça, genre hyper demandeurs techniquement, des jeux qui faisaient vraiment des bons en avant d'un point de vue technique. Et le problème, c'est que derrière, on avait des consoles qui étaient pas très bien modélisées, surtout. On avait des consoles qui ça aidait pas en fait. On avait des gros progrès techniques et à côté de ça, les consoles, elles commençaient avec un peu de retard en fait, parce qu'elles étaient pas très très bien opti. Et donc, ouais, la génération PS3, je me souviens par exemple Skyrim. Un jeu comme Skyrim sur PS3, c'était une bouse. Sur Xbox 360, ça allait. Mais voilà, les jeux qui étaient demandaires, c'était un peu compliqué. Ensuite, on a eu la gêne PS4. Pareil, surtout des jeux éditeurs tiers, parfois c'était un peu compliqué en termes de performance sur la One PS4. Ça allait, je pense que c'est quand même techniquement une génération qui se portait mieux que la génération précédente. Et aujourd'hui, je sais pas si je saute une ligne que tu voulais dire vis-à-vis de la gêne PS4 ou One. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, Ulysse. On peut dire beaucoup de mal de la génération actuelle, mais on est peut-être sur la génération la mieux optimisée, techniquement parlant. Je veux dire, le pari du 60 FPS, de la 4K, des jeux en monde ouvert, des jeux, je veux dire, là, on est en plein dans la génération PS5 Series X et S. Et est-ce que tu me rejoins sur le fait de dire techniquement, je veux dire, s'il y a un point sur lequel on ne peut pas leur retirer quelque chose, c'est que c'est des machines très très bien construites. Les développeurs nous font des merveilles avec encore aujourd'hui. On n'a même pas fini de voir le bout de le fond de leur sac, j'ai envie de dire. Donc si jamais tu veux rebondir, vas-y.
Non, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une génération qui qui est un peu triste. Parce que je pense qu'en termes de technologie et technique, si on parle visuel en tout cas, même en fait son, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas trop évoqué, mais voilà, quand on parle technique, avec les consoles 16 bits, 32 bits, enfin surtout que c'est 8 et 16 bits surtout, pendant le bon qu'il y a eu, quand on parlait justement des Sega Mega Drive, ou de la Nintendo et Super Nintendo, c'est des consoles où le bon qualitatif qu'il y a eu en termes de sonorité, de musicalité, c'était fou, genre les musiques, c'est pour ça qu'elles sont aussi marquantes, c'est un style. Et du coup, c'est aussi ça, c'est que la technique, elle définit artistiquement des jeux. Sur PS5 et Series X, et Switch 2, parce que en fait, c'est la même gêne, on pourrait dire, avec la Series S, on a atteint un seuil où on arrive à jouer dans de bonnes conditions à peu près tous les titres modernes, contemporains. Il n'y a pas vraiment deux titres où tu te dis, oula, l'expérience, elle est vraiment trop sacrifiée, ça va trop loin.
Si c'est le cas, c'est pas spécialement la faute des consoles. Que je veux dire, les consoles sont pas super limitées. Il y a des jeux qui sont peut-être mal optimisés, mais très souvent ça vient peut-être d'ailleurs.
Enfin,
mais c'est jamais vraiment un. Les consoles ne sont jamais vraiment un frein, j'ai l'impression. Pour l'instant, parce qu'on est quoi, on est en 2025, j'ai pas vraiment de titre en tête où je suis en mode ah purée, ouais, là la console, je prends pas vraiment de plaisir, je sais pas, j'ai pas de titre en tête. Tu vois, genre, je sais pas, on a eu genre un jeu comme Kingdom Come Deliverance, techniquement assez impressionnant. Indiana Jones, pareil. Hyper hyper demandeur, et à aucun moment je me dis putain, ma Series X ou ma PS5 elle me limite dans mon plaisir que j'ai, là où par exemple une PS4 vis-à-vis d'un Cyberpunk, une PS3 vis-à-vis d'un Skyrim, et j'en passe.
Bien sûr. Je pense que ça nous amène un peu à la partie suivante qui était la réception des joueurs. Je pense que les consoles sont limitantes sur un aspect, mais ce qui est qu'en fait l'évolution des graphismes, on a l'impression qu'on stagne. Je pense que c'est l'inverse, je pense qu'on évolue hyper vite, et du coup qu'on n'arrive pas encore à avoir une base solide. Je pense qu'au début de la génération de la PS5, en fait, il y a deux modes, on va dire, entre guillemets, je vais vraiment vulgariser, hein, je ne suis pas un expert non plus de la technique ou autre. Il y a deux méthodes de rendu pour les jeux vidéo, quand on parle de 3D, qui sont la rasterisation et le ray tracing, dans l'idée. Path tracing ou autre. Donc, la rasterisation, qui serait vraiment de définir donc, tes volumes, les cubes, la 3D, en plaçant un peu tout à la main, avec des shaders et tout. Donc voilà, c'est par exemple s'il fallait résumer un peu des shaders, vu que ça va être un peu le débat aussi de l'épisode. C'est des petits programmes, du coup, qui tournent sur la carte graphique et qui calculent, du coup, les couleurs, les lumières, les ombres, les textures, les reflets. Et c'est grâce à eux qu'on a, entre guillemets, le résultat final.
Ouais, le graphisme, en fait. Je sais pas comment expliquer, une sorte de...
C'est ça. Et avant les shaders, genre dans les années 2000, si un mec voulait faire des graphismes de jeux vidéo, fallait qu'il calcule, genre, fasse tout un peu à la main. C'est pas comme si je vous disais, faut dessiner, genre, la Joconde avec Paint. D'un coup, je vous dis, non, mais là,
faut que tu fasses ton croquis.
Je peux te filer, genre, un pinceau, ça va faire telle couleur, tel truc et tout. Et du coup, ça simplifie toutes les méthodes de rendu.
C'est
un gain de temps de ouf et tout. Et à l'époque, on se disait, putain, mais pourquoi on veut des shaders? C'est hyper gourmand. Aucune graphique fonctionne pour Doom 3.
C'est ça.
Et donc là, on a une époque où la rasterisation, donc les méthodes de rendu classiques pour les ombres et tout, elles sont bien optimisées sur PS5. C'est pour ça que Battlefield 6, il tourne à 120 FPS, plus de 1440p.
Le mode qualité, il tourne à 80 FPS. Voilà. Genre, c'est énorme.
Par contre, quand on commence à parler ray tracing, c'est là où tu sens que c'est des consoles qui ont des bases, mais tu vas rarement avoir du ray tracing à plus de 60 FPS. Même à 30 FPS, ça va être un peu là où ça tourne. Et les jeux et les développeurs utilisent de plus en plus de ray tracing. Et le débat qu'on a actuellement...
D'ailleurs, il faudrait peut-être rapidement définir le ray tracing en vif. Comme tu as fait pour les shaders.
Ouais, le ray tracing, c'est une méthode de rendu qui est dynamique au sens où les éclairages, les ombres, les reflets sont calculés en temps réel. C'est pas des artistes ou des programmeurs qui vont placer leur
spot de lumière.
Leur spot, qui vont du coup générer un peu une scène. Par exemple, si vous vous demandez pourquoi il y a 10 ans, Astrid Unity est aussi beau en termes d'éclairage, on parle de baked lightning, comme si comme si l'éclairage avait été cuisiné. Et en fait, c'est parce que tu laisses plusieurs PC ou je sais pas quoi faire un rendu de l'espace en disant on va calculer plein de rayons, où est-ce que la lumière va arriver à tel moment de la journée. Et ça fait que la scène, elle est hyper précise en termes d'éclairage. C'est hyper beau.
Et ça demandait genre un budget de ouf à Ubisoft, ça demandait beaucoup de temps. C'était un gain de temps. Et là où le ray tracing aujourd'hui, il y a un côté un peu magique en fait. C'est un peu le pari de cette génération.
C'est ça. C'est, imaginons, genre, sous Lila, une tasse, il y a un éclairage que je suis en train de faire et tout, donc je suis en train de cuisiner mon éclairage, on va dire ça comme ça. Si la tasse, elle bouge, L'ombre, elle va pas se déplacer. Parce que j'ai préparé genre, ma tambouille en me disant non, la tasse, elle était que ici.
Ce que tu as préparé ne s'adapte pas, en fait, voilà, aux événements. Voilà, si on interagit, parce que voilà, si on interagit peut-être avec l'objet en question, on se dit ah, bah forcément, vis-à-vis de la lumière, ça devrait changer. Bah forcément, c'est très technique, c'est très galère. Mais ouais, aujourd'hui, dites-vous, avec le ray tracing, bah en fait, c'est calculé en temps réel et du coup, bah, l'ombre va s'adapter. Et faut le voir pour le croire. Le ray tracing, c'est le genre d'éléments avec un avant-après. C'est hyper chelou. Genre vraiment, ça fait hyper. Surtout quand on le désactive. Il y a un côté de purée. Comment on faisait pour jouer sans ça à l'époque?
Ouais.
Genre, mais même le level 1 de ray tracing, parce que c'est qu'il y a différents niveaux, on va dire, de niveau de calcul. Aujourd'hui, on parle même de path tracing, qui est un level vraiment. Qu'on retrouve peut-être sur Cyberpunk 2077. Il n'y a que les cartes graphiques les plus performantes capables de gérer cette technologie-là. Mais ça a été le ray tracing, je me permets de rebondir, ça a été vraiment le pari de cette génération avec la 4K 120 FPS. Je me souviens, il y a encore en parlant en 2019-2020, ouais, de la nouvelle génération de consoles, on disait ouais, ça va être des jeux qui pourront tourner jusqu'en 4K. On a des jeux en 4K native, on a des jeux qui tournent en 120 FPS aussi. Les deux en même temps, c'est compliqué. Il faut vraiment que les jeux soient souvent ricky et tout et soient pas très demandeurs en termes de graphisme. Mais le ray tracing, disons, on a une once. On le retrouve un peu par-ci, par-là. Voilà. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va déjà être, vis-à-vis de la génération suivante, totalement maîtrisé. Mais pour rebondir, allez, une deuxième fois sur le ray tracing, ça génère une quantité de débats sur Internet. Et c'est là où on va commencer, je pense, à déconstruire certaines choses. Moi, mon premier take, c'est que le ray tracing, on n'a pas fini d'en parler parce que c'est le présent et le futur. Il faut aller dans le... on ne peut pas genre aller à l'encontre du ray tracing. Il y a plein de gens qui vont vous dire parce qu'on a le choix dans un... par exemple sur PC, on peut ou non désactiver le ray tracing comme on a envie. C'est pas un souci, c'est pas très grave, il va rien se passer, le jeu va pas exploser. Mais quand on a des jeux qui sont pensés pour, je veux dire, un jeu comme Cyberpunk 2077, il est pensé quand même avec des éclairages, avec du ray tracing. Et sur Internet, on a vraiment une sorte de réticence, on va dire une forme de dualité envers cette technologie qu'on a vu rarement ailleurs. Et je te pose la question, Ulysse, je te mets sur le spot, pourquoi? Pourquoi on commence à en avoir marre du ray tracing? Quand je dis on, je parle des gamers.
Parce qu'on est des bébés, mais non, en vrai, il y a un peu de ça. Hein. En vrai, il y a un peu de ça, la question, mais c'est vrai. Au sens où, tu vois, par exemple, tu parlais de Cyberpunk 2077. Je pense que c'est un jeu qui, justement, repose pas sur le ray tracing, au sens où il est très bien optimisé sur toute sa pipeline. Au sens où c'est un jeu, si on parle de rasterisation, donc méthode de rendu classique, le jeu tourne sur Switch 2, il tourne sur une Xbox One et PS4, très mal.
Mais il tourne,
il existe maintenant. Sur une One X, c'est un peu mieux, PS4 Pro pareil, et après t'as les versions PS5 et Series X qui en soi n'utilisent pas forcément de ray tracing en 60 FPS. Tu vois. Et après sur PC, ouais, tu peux mettre genre, le ray tracing de base, aller en ultra, et après en effet, comme disait Swill, aller jusqu'au PAF tracing. Bon, le PAF tracing,
pas mal ça.
J'ai entendu.
on la garde, allez, let's go. Allez, on passe à la radio.
Et du coup, le PAF tracing, l'idée c'est que. En fait, c'est du ray tracing à 100%. C'est-à-dire que tous les effets, c'est-à-dire que le ray tracing, quand on en parle, on décompose. On dit, ah, on parle de lumière, on parle d'ombre, on parle de reflet. Le path tracing, c'est que tous les éléments visuels envoient des rayons et sont calculés en temps réel. Tout ce qui est à l'image est calculé en temps réel et c'est ce qui, de base, est utilisé dans l'animation 3D. Donc, c'est extrêmement gourmand. Et c'est pour ça qu'il y a des débats actuellement vis-à-vis du ray tracing, vis-à-vis des joueurs comme le Diswill. Il y a deux cas de figure, même 3-4, en fait, que je vais citer. Vous avez sûrement vu passer la polémique avec Borderlands 4. Mais tous les jeux Unreal 5, en fait. Mafia The Old Country, Black Myth Wukong.
Metal Gear Solid Delta.
Ouais, Metal Gear Delta. C'est des jeux où les performances, elles laissent un peu à désirer. Si on veut essayer de faire un peu brièvement les problèmes, c'est le Traversal Stutter, qui est évoqué avec l'Unreal Engine. Tu veux dire
ouais.
Ce que c'est
oui, on le retrouvait même, je crois, sur l'Unreal 4. On l'avait aussi ce...
Oui, sur l'Unreal 4 aussi, c'est
vrai. Unreal 4. Genre, pour vous illustrer ça, je pense qu'il y a un jeu qui est très simple. Prenons Jedi Fallen Order de chez EA.
EA, et ouais. C'est...
Quel studio, déjà?
Non.
Oula. Respecte... Oula.
Respawn.
Respawn Entertainment, merci. Prenons Fallen Order qui tourne sur Unreal 4, si je dis pas de conneries. On va avoir un souci. C'est un truc qui arrive très souvent, genre souvent au début du jeu. Quand c'est un stutter qu'on va avoir surtout quand on lance le jeu. C'est un truc qui est assez bizarre et chelou. C'est en fait, plus on joue au jeu, moins on va le rencontrer. Et c'est en fait qu'en fait le jeu, par exemple, vous êtes dans un couloir, on va pas prendre un open world. Je pense que c'est mieux de prendre un niveau qui est chargé. Quand le jeu va charger une zone, très souvent c'est quand vous allez passer une porte ou je sais pas prendre un ascenseur, il va charger la zone suivante. Et à chaque fois que, par exemple, le... Comment il s'appelle le héros de Fallen Order ?
Cal Kestis.
Cal Kestis, voilà le nom à la con. Cal Kestis va genre passer un couloir et charger une zone, vous allez avoir un stutter. Un stutter, pour vous illustrer, c'est une chute de performance de FPS.
C'est une saccade.
Ouais, voilà. C'est une saccade qu'en fait, qui est très rapide, courte, et en fait, on a l'impression de buter, en fait. Il y a vraiment une chute rapide et qui remonte ensuite. On a vraiment une sorte de dodan, ouais. On va appeler ça un dodan, je pense que c'est une bonne,
ouais,
une bonne
comparaison.
On a vraiment une sorte de dodan, et en fait, le truc, c'est que ça va arriver très, très, très souvent sur ce moteur. Le truc, c'est que c'est pas spécialement un souci d'optimisation, parce que c'est un problème qui arrive sur à peu près tous les jeux. C'est-à-dire que c'est pas que chez Respawn. C'est un problème qui arrive chez pas mal de... chez quasiment tous les jeux Unreal Engine 4 et 5. Donc, c'est un problème qui est propre au moteur. Donc, c'est déjà pour vous illustrer, vous, auditeurs, le problème, c'est que on a des moteurs, on a des développeurs. Il y a un côté de... on cherche souvent à qui la faute, mais c'est pour vous montrer que les choses, comme je disais au début de l'épisode, c'est pas aussi simple que ça.
C'est pas aussi simple que ça, en effet. Et du coup, en effet, bah, sur l'Unreal Engine, donc le Traversal Stutter, c'est donc cette saccade-là quand on se déplace, parce qu'on se rend compte que c'est un moteur graphique, quand il y a des gens comme Alex Battaglia de Digital Foundry qui en parlent ou autre, ils sont là en mode, ouais, c'est pas un moteur qui est pensé pour du monde ouvert. Pour des zones fermées, chargées et tout, ça va, mais dès que vous êtes sur du monde ouvert avec plein d'éléments, il va tout le temps en fait rencontrer comme ça ces petites saccades, ce qui fait que bah, forcément ça nuit à la fluidité de l'expérience.
Surtout sur PC d'ailleurs, excusez-moi pour la parenthèse. Ouais.
Et vu que les joueurs deviennent de plus en plus exigeants, parce qu'on parlait de la génération donc PS5 et Series X, c'est une génération où on n'a peut-être jamais eu autant de jeux qui proposent des modes 60 FPS.
C'est vrai, c'est comme tout, je l'ai dit, hein, je trouve que c'est techniquement c'est une voilà. Génération très bien optimisée.
Et du coup, bah, vu que le début de gen était en fait que des jeux en vrai cross-gen, parce que c'est ça aussi, on est quasiment encore sur la cross-gen hein, au bout de 5 ans, ça reste beaucoup de jeux qui étaient parfois pensés pour la PS4 ou qui avaient en tête la PS4, donc les versions PS5 étaient hyper clean, et maintenant on s'éloigne de ça, et là on commence entre guillemets à atteindre un peu le « ah voilà les limites de la console ». Et du coup les joueurs sont un peu en mode « ah mais où est-ce qu'on rencontre des problèmes sur les jeux sous Unreal Engine ?»
5.
Donc c'est pour ça que là ils gueulent beaucoup, et est-ce qu'ils ont raison, comme Swill le dit, oui et non. Donc il y a le Traversal Stutter, mais il y a aussi le problème de performance, où la résolution peut être très basse, et là, sur PC, ce qu'on va évoquer, ça va être l'IA par rapport au DLSS ou FSR, qui sont des méthodes d'upscaling. Qu'est-ce que c'est l'upscaling ? C'est de la super résolution, si on doit en parler en français. Imaginons votre jeu, il a du mal à tourner en 4K. C'est une résolution quand même énorme et tout. On va le faire tourner en 1080p, résolution plus basse, et avec de l'IA...
On va reconstruire l'image.
On va reconstruire l'image, exactement. Mais c'est pas un bouton magique, par exemple. Ça, c'est un truc où beaucoup de gens vont dire « Ah, on peut mettre du DLSS ou l'implanter. »
C'est pas aussi fin que de la 4K native non plus.
Ça dépend, je crois, des méthodes d'upscaling.
Ça dépend, oui. Aujourd'hui, on atteint des niveaux de DLSS qui sont phénoménales. Et surtout, vis-à-vis du gain de performance, en fait, l'intérêt du DLSS, c'est que derrière, il reconstruit l'image et il essaye de maintenir... c'est-à-dire, il va avoir un... Parce que forcément, quand on va augmenter la résolution de manière brute, bon terme, on avait très souvent une chute de FPS qui était logique.
Ouais.
Faut s'imaginer une sorte de balance, en fait. Et l'intérêt du DLSS de chez Nvidia, c'était d'avoir un gain de résolution avec le moins de sacrifices en performance derrière. C'est ça, surtout vis-à-vis du DLSS 3, vis-à-vis sur Red Dead Redemption 2. Moi, c'est vraiment le moment où j'étais en mode « Oh putain de merde !» Genre, c'est exceptionnel. C'était vraiment vis-à-vis de Red Dead 2, le DLSS dessus fait de la magie noire.
Ah, de ouf. Et là, le DLSS 4, c'est le modèle Transformer. La plupart des jeux, plutôt que d'y jouer en natif, je me dis « Ah, je vais mettre du DLSS ». Même parfois, plutôt que jouer en natif, je me dis si je mets du DLSS qualité, ça sera plus fin et plus beau. Alors que je suis du coup avec une réduction de... Je crois que ça tourne à 66% de la résolution voulue. Donc par exemple, sur de la 1440p, moi c'est mon moniteur, sa résolution, je tourne en 900 et quelques p. Et l'image est plus fine, il y a plus de détails avec le DLSS que si je joue en natif.
Ça, après, c'est un progrès exceptionnel d'ailleurs de cette génération.
C'est
ça. Noter, hop, gros progrès.
Voilà. Mais chez les joueurs, ça fait beaucoup de débats parce qu'il y a un peu une sorte de... sais pas comment l'expliquer, mais il y a une forme de réticence à utiliser ces technologies-là, beaucoup plus vis-à-vis du framegen, de la frame génération et tout, qui est sur Black Myth Wukong sur PS5.
Et du framegen sur...
Ouais, il y a du framegen, le framegen de
sur AMD. FSR
le mode 60 FPS tourne à 30 FPS avec du framegen.
Je savais pas du tout, dis-toi.
Et je crois que c'est la version PS5 de base. Et donc le framegen, s'il fallait expliquer très brièvement ce que c'est, pour une image, une vraie image générée par votre carte graphique et votre console, il y a une fausse image.
L'IA génère des frames supplémentaires, genre des fausses images en fait.
Voilà.
Des fake frames.
Pour qu'il y ait l'impression d'une fluidité augmentée.
C'est pas aussi abouti que le DLSS, clairement. Le DLSS a énormément progressé sur cette génération. On est à des années-lumière de ce que pouvait faire le DLSS il y a 4-5 ans. Et en plus, surtout que c'est une technologie qui s'est répandue. Il n'y a pas que Nvidia. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le FSR, c'est un équivalent au DLSS. Mais c'est le DLSS de AMD, en fait. C'est pas une technologie qui est spécialement différente. Juste, le DLSS est plus abouti. Nvidia est peut-être les meilleurs dans ce milieu-là.
Ouais, bien sûr. Bah, en fait, Nvidia, ils ont commencé il y a 10 ans, à peu près, leur modèle, vraiment à travailler le DLSS et tout. Bah, les premiers jeux avec du ray tracing, c'est Battlefield 1, étonnamment. Je crois qu'il était vraiment le premier à mettre en avant le côté RTX, avec les RTX 2060, 70, 80 et tout. Là, on est sur les RTX 5000. Pour vous dire, vu que c'est
3 générations.
Une génération de carte graphique, c'est 2 ans, voilà. Ça fait quand même donc 3 générations qu'Nvidia il travaille à ça, sur le ray tracing.
Aujourd'hui, c'est abouti quand même.
Voilà. Mais AMD a pris du retard. Après, il travaille maintenant avec PlayStation pour essayer de... Tu veux qu'on parle de ça après ?
Non, j'ai juste dit le pisseur, je kiffe trop le PSSR. Ah oui. Ouais. Qui de base, maintenant, a changé de blague, je crois, ils ont juste mis FSR, je crois, je sais plus c'est quoi.
Voilà. Oui, parce que PlayStation aussi a voulu faire son upscaler, en fait, son modèle de super résolution, son modèle d'IA, qui n'est pas très convaincant, ça dépend des jeux. Du coup, là, ils se sont associés à AMD pour l'améliorer. Mais donc, pour revenir à pourquoi les gens gueulent, il y a beaucoup de jeux, on l'a dit, MGS Delta, Borderlands 4, où les performances, elles laissent à désirer.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
Et d'ailleurs, je me permets de faire la transition.
Vas-y, vas-y.
C'est pas pour défendre les gamers, loin de là. Vous connaissez mon... Je veux dire, ça fait 3 saisons, les mecs. Vous connaissez à quel point je déteste les gamers. Et j'en suis un aussi. Je vais lancer mon take et tu vas me dire si tu me rejoins. Il y a un aspect identitaire assez fort vis-à-vis de la technique, vis-à-vis des joueurs PC. C'est-à-dire le PC Master Race, tout ça, tous ces éléments-là, je veux dire, quand tu es un joueur PC, souvent, tu vas porter une certaine importance à la technique plus qu'un joueur console. L'une des raisons pour laquelle j'ai l'impression les gamers aussi se plaignent, quand on achète une carte graphique à 900 balles, quand on se mate, quand t'es là, tu veux build ton PC, tu vas mater vidéo sur vidéo, comparer des avis, tu vas sur des forums, tu vas sur YouTube, tu vas demander l'avis de tes potes, tu vas en magasin, tu vas par-ci par-là. À la fin, tu construis ton PC et que t'en as pour aller faire une belle bête, allez, on va dire 1 800 €. 1 800 €, t'as une bête, je pense. T'as pas la bête, mais t'as une bête. Derrière, y a ce truc de... Tu t'attends à ce que ça fonctionne. Tu t'attends à ce que... tu sais, l'aspect un peu bête. Et je pense que c'est un truc qui est assez paradoxal vis-à-vis du PC. C'est-à-dire que quand souvent on met énormément d'argent dans une chose, c'est que derrière, on s'attend à être tranquille. Et c'est un truc qui est assez paradoxal vis-à-vis du PC. C'est que peu importe l'argent qu'on va mettre dans un PC, il faut que toi, derrière, c'est un truc qui est propre au PC, il faut mettre les mains dans le moteur, là, tu vois, faut se salir les mains et avoir une serviette dans le dos et y aller, tu vois. Et c'est assez paradoxal, là où des consoles sont beaucoup moins chères, et à aucun moment tu te prends la tête techniquement vis-à-vis d'une console, et elle fonctionne, ou ça fonctionne pas. Mais tu vas rien bidouiller dans une console. On va te proposer deux modes.
Le Red Ring of Death.
Ouais, voilà. Je sais pas, genre, tu sais, genre, on va te proposer deux modes très souvent, ou un peu plus, on cap le framerate, ce genre de choses, t'auras la possibilité. Et je pense que, tu sais, genre, vis-à-vis des gamers, et je pense que on prend ça en compte, genre, t'as des mecs qui vont mettre autant d'argent Et derrière, j'ai l'impression que c'est... Ulysse, tu vas m'en parler, parce que c'est le seul de chez RNG qui a un PC depuis un bon moment maintenant. Windows. On peut en parler deux secondes ou pas? Est-ce qu'on peut parler du fait que il y a différentes couches en termes de... Et j'ai l'impression, comme je t'ai dit, genre, on fait énormément de progrès vis-à-vis de, t'sais, de la progrès des graphismes. Et voilà, on se répète énormément dans RNG, c'est normal, c'est le sujet, mais j'ai l'impression que s'il y a bien un truc sur lequel on régresse, et je le vois sur Internet, je le vois sur des forums et tout, c'est vis-à-vis de la facilité à, j'ai envie de dire, à manier son PC, à gérer, que ce soit... est-ce que c'est le launcher? Est-ce que c'est Windows qui me fait chier? Est-ce que c'est telle mise à jour? Est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus là-dessus? Est-ce qu'on n'a pas régressé?
Je pense que c'est une impression qu'ont beaucoup de joueurs. Le sentiment de est-ce qu'on a régressé vis-à-vis de l'OS, Windows et tout, je pense que c'est un sentiment qui est présent un peu partout dans la communauté du jeu vidéo. C'est-à-dire que un des éléments qu'on voit le plus souvent dit, c'est techniquement, on est resté bloqué avec des The Witcher 3, des Batman Arkham Knight, Uncharted 4. C'est souvent les jeux qui ressortent pour vous dire hey, on a piqué à 10 ans. On fait plus de nouveaux trucs. Là, vous nous parlez de ray tracing, de machin, mais est-ce que le jeu, il est plus beau que Nathan Drake de nuit avec une torche, je sais pas quoi.
Ça fonctionne pas comme ça.
Déjà.
Ça fonctionne pas comme
et
ça.
Et sur ce point-là, je suis pas forcément d'accord, je crois que c'est cool non plus. Par contre, sur l'OS et sur l'optimisation PC, on a régressé. On a régressé au sens où il y a 10-15 ans, si vous aviez une carte graphique haut de gamme, il se pouvait que d'ici un ou deux ans, un nouveau jeu sortait et votre graphique était obsolète. C'était une possibilité avec des GTX, même pas les 900 et quelques, mais vraiment des 4000, je sais pas quoi et tout. Des nombres de cons, je connais pas bien.
Ah ouais,
voilà.
Plein, là, ouais.
Maintenant, une RTX 2060 sortie il y a quasiment 8 ans, elle fait tourner les titres actuels, même en low. Elle peut viser du 60 FPS, 1080p. Enfin, elle est encore actuelle. Elle sera forcément très basse dans un classement et tout. Même des 1080 Ti sortis il y a 10 ans, les mecs sont en mode « Eh, elle fait tourner les jeux compétitifs, Fortnite et tout, CSGO et tout, elle est encore apte à le faire. » Il y a 10-15 ans, tu parlais de hardware fait il y a 10 ans encore avant, il n'y avait aucun monde où tu faisais quelque chose avec. Donc, d'une certaine manière, on a du hardware qui est plus performant et où on n'a jamais été aussi gâté, en fait, entre guillemets. Tu sais, si tu veux avoir une pérennité de ton matériel. Par contre, en termes d'optimisation d'OS, donc de Windows et tout, c'est catastrophique. Windows 11 est une bouse sans nom. Le nombre de vidéos qui pop où les gens vont vous dire eh, « Est-ce que c'est le moment pour que Linux passe devant ?» Je sais pas pourquoi, on dirait une sorte de clan qui attend dans l'ombre. Ils sont en mode « Est-ce que c'est enfin notre moment ?»
Ça fait 20 ans, ils sont en mode « Ah putain !» Allez-y les gars, il est en train de mourir, il est en train de se vider de son sang.
C'est peut-être que les gamers peuvent enfin aller sur Linux. Et t'es là en mode « Gros, en vrai, non. »
L'odeur. L'odeur de Linux purée. Vas-y, vas-y.
Mais ça marche, tu vois, Linux. Moi, j'avais un PC sur Linux il y a 15 ans, je me rappelle, mon père en avait un et je jouais pas trop, mais c'était hyper, tu sais, genre réactif. Là, sur Windows 11, j'ai rencontré un bug il y a pas longtemps, c'est juste, t'as ma carte Bluetooth qui faisait un check, genre elle checkait un peu les réseaux et tout. Si elle faisait ce checking-là pendant que je jouais, ça faisait de la saccade. Genre, du coup, le jeu se met à saccade, je fais putain, je comprends pas et tout, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup il stutter et il peut crasher? Et c'est à cause d'un élément dans les paramètres Windows. Genre, je sais que la chaîne J2Sense en parle. Vous pouvez checker si jamais vous avez ce problème-là. Mais c'est le problème avec maintenant le gaming sur PC, c'est que entre est-ce que le problème vient du jeu d'NVIDIA et ses drivers, ou AMD avec ses drivers, mais AMD c'est plutôt bien en ce moment.
Launcher.
De Windows. Du launcher aussi. De votre connexion Wi-Fi, ce qui ferait crasher votre carte. Enfin, en fait, vous devenez une sorte de mécano. Où vous êtes là à faire vos tests, à dire putain, mais d'où vient le problème?
Ouais, le petit singe dans Toy Story là qui guette tous les trucs là, voilà. Vous êtes le singe de Toy Story.
Et donc je pense qu'on a régressé et qu'en effet, les joueurs, comme ils le sentent, en tout cas sur PC, et c'est pour ça qu'ils sont très durs avec n'importe quel problème. Genre maintenant, il y a un côté un peu despot, en mode mon jeu tourne pas à tel framerate alors que j'ai une 5080 et que je fais tout en path tracing. Désolé, mais ça me convient pas en fait. Et t'es là en mode bah gros. Les choses ont un coût aussi, tu vois. Tu peux pas demander un homard à 10 balles parce que tu veux du homard.
C'est ça.
Et du coup, c'est un peu compliqué. En fait, c'est ça. Je pense que la conclusion, c'est comme Discord, c'est compliqué.
Ouais, c'est le bordel. En fait, c'est le bordel parce qu'il y a énormément d'éléments qui rendent en compte. Surtout sur le PC.
Vas-y, j'ai une question pour toi, Swill.
Vas-y, balance-moi.
C'est pour toi. C'est quoi l'avenir du jeu vidéo techniquement? Si on devait, tu sais, entre guillemets, imaginer un peu une sorte de courbe, en mode, ah, vers quoi on va évoluer, comment on doit pérenniser un peu les consoles et le PC, vers quoi on devrait aller?
Personnellement, le truc sur lequel je suis curieux de voir comment on va, et je vois aussi vers où l'industrie va, pour moi, l'enjeu, comme je disais tout à l'heure, on est peut-être sur la génération la mieux maîtrisée d'un point de vue technique, d'un point de vue optimisation, grâce au fait que les consoles sont hyper similaires, on n'a pas eu de gap brut en termes de performance technique. Comme tu as dit, genre, les jeux tournent assez bien en 60 fps sur console encore aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas les deux dernières générations, ouais. Loin de là. Donc moi, en vrai, sur le truc sur lequel vraiment j'ai hâte de voir l'industrie gérer ça, c'est comment elle va faire pour maintenir cette qualité d'optimisation sur des consoles portables. On le sait,
ah, oui.
Xbox travaille sans... PlayStation travaille sur une console portable. On a la Switch 2. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est un peu le... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'enjeu. Vraiment, on a ce truc de... Ok, maintenant, on a les capacités pour avoir des consoles de salon qui tiennent la route d'un point de vue technique. Maintenant, la question, j'ai l'impression de... Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu et avoir le... Forcément, ça va être moins beau, faut pas déconner. Est-ce qu'on peut avoir la même expérience entre nos mains et de manière portable, en fait? Ça, j'avoue que c'est sur ça que moi, j'ai hâte... Perso, je préfère les consoles de salon, c'est pas ce qui me fait kiffer, mais c'est un truc qui m'intrigue, c'est ça que j'ai envie de dire.
Je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que le débat qui va avoir lieu avec les consoles portables, c'est la question de... J'ai le terme efficiency, tu sais, mais c'est l'efficacité.
C'est de la puissance, des watts et de la...
Exactement, okay, c'est comment t'arrives à avoir un rendu console genre, tu sais, quand même PS5 et tout, tu vois, qui sont quand même pas des mauvaises consoles, sur une machine qui consomme genre 10 watts.
Bah, c'est là où ça rentre en compte l'IA, je pense que c'est peut-être sur ça que ça va jouer. Et c'est là, je pense, le secteur majeur, parce que l'IA, on en pense beaucoup de choses, même en dehors du jeu vidéo. Je veux dire, c'est un sujet qui est absolument partout, qui dépasse le jeu vidéo. Mais il est surtout présent dans le jeu vidéo. Il a même toujours été un peu présent, mais là, vis-à-vis des techniques de développement et de techniques de rendu, on a l'impression que c'est l'enjeu de la prochaine génération.
Ah oui, clairement.
Genre, si la génération PS5, Xbox Series, c'était le pari, c'était le ray tracing, le 4K, le 120 FPS, on peut dire une échelle 1 à 10, on est sur un 7,5, 8 sur 10. Je veux dire, ray tracing, on gère un peu bien.
C'est les balbutiements, je trouve.
Voilà. Mais sinon, en termes de résolution et de performance, on est encore... ça va. Et je pense que aller chercher les vrais progrès, parce que là, on atteint une sorte de plein fond de verre. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on voit sur des sujets qui sont économiques et tout. On atteint tellement un stade, une sorte de plafond de verre de progrès technique que chaque progrès va demander une capacité budgétaire, une capacité, on va dire, intellectuelle, vraiment. Ça va demander des efforts monstres. On atteint ce stade-là où...
Ouais, d'ingénierie et tout.
D'ingénierie pour avoir un retour, on va dire, sur investissement qui est ridicule. Comme je le disais très souvent sur pas mal de... On n'aura plus de gap générationnel comme le passage du 2D à la 3D, comme tu l'as dit, le son de la NES à la Super NES. On n'aura plus de gap générationnel comme ça parce qu'il y avait tout à faire à l'époque. Là, maintenant, on atteint un stade où... on n'a pas tout fait, bien sûr que non, mais on n'aura plus de gap générationnel suffisamment fort pour se dire, OK, là, on est dans une autre génération. Et je pense que le véritable enjeu se joue vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis de... la vitesse de rendu vis-à-vis, par exemple, d'une console portable, tout simplement, comme on l'a dit. Est-ce qu'avec de l'IA, on peut avoir un rendu plus ou moins similaire à une console avec une consommation d'énergie moindre? Après, l'IA, il se situe sur d'autres sujets aussi, vis-à-vis du développement, on le voit très bien. Quand Microsoft fait des coupes budgétaires à coups de licenciement, on sent que derrière, c'est pour remplacer... Est-ce que l'IA... Voilà, c'est en mode... Est-ce que l'IA peut pas remplacer des développeurs? Spoiler, non. Genre, tu connais très bien mon avis dessus. Ouais. Mais vis-à-vis juste de progrès techniques et de techniques de rendu, vis-à-vis de, comme je l'ai dit, par exemple, hein, c'est un exemple, comme je l'ai dit, voilà, les consoles portables, là, il y a un véritable enjeu. Et par exemple, les techniques, comme on l'a dit, voilà, de DLSS, de ce genre de techniques-là, vont être des éléments majeurs de la prochaine génération. PlayStation se situe déjà dessus, je veux dire, ils l'ont déjà essayé avec le PSSR, qui est maintenant, on peut le mettre avec le FSR de chez AMD. Le truc, c'est que maintenant, Microsoft, moi, j'ai l'impression que la prochaine génération, ils vont s'éloigner d'AMD et peut-être construire leur propre console avec leurs propres composants. Moi, ça me fait très peur, je ne vous mens pas. Mais ça veut dire derrière, est-ce qu'ils auraient... voilà, parce que Microsoft, derrière OpenAI, est-ce qu'ils auront peut-être une... ils vont élaborer une technologie de rendu...
maison un peu.
Maison, voilà, et tout. Ça va être intéressant. Ça, clairement, ça m'intrigue. J'ai peur, par contre. Ça m'intrigue, mais j'ai peur. Voilà, c'est mon take. Après, il n'est pas très osé. Je pense que se dire que l'IA, c'est l'avenir des progrès techniques, c'est l'avenir du jeu vidéo. C'est pas très osé, mais qu'on le veuille ou non, c'est le cas.
C'est pas si osé que ça. Et en même temps, moi, je suis grave d'accord. Et en même temps, je trouve qu'il y a des gens qui vont gueuler et dire « Ah, mais c'est pas normal. »
Là où je suis d'accord un peu avec eux. Hein. Moi, ça me fait un peu chier.
Moi, oui et non. Je pense que... c'est, en fait, c'est comme tu dis, le côté un peu retour sur investissement. Je pense que si on veut continuer à évoluer techniquement, on est obligé de trouver d'autres solutions. C'est que si le hardware, entre guillemets, peut plus le temps évoluer que ça, enfin vraiment sur le côté puissance brute, bah, il faut trouver d'autres solutions. C'est si t'as la bagnole, finalement, ton moteur, là, il n'arrive plus à dépasser les 200 km/h, peut-être, je sais pas, il faut trouver des spoilers, peut-être des questions d'ingénieur où tu fais « Ah, ça va réduire la friction de l'air. » Et c'est un peu ça l'idée de l'IA, c'est la super résolution, c'est dire, avec une résolution plus basse, on peut, du coup, atteindre de meilleures performances, mais quand même garder à peu près la même qualité d'image.
Logique d'optimisation.
L'important, maintenant, c'est le rendu final. On parle technique, on a parlé beaucoup de trucs, termes très spécifiques, parfois en vulgarisant et tout. Peut-être que j'ai aussi eu des erreurs là-dedans. Mais ce qui est important à retenir avec cet épisode, c'est que les joueurs sont soucieux du résultat final. Ils se posent pas tant la question de comment on y parvient. C'est pour ça qu'ils sont contre le ray tracing. Ils sont un peu, ah, mais en fait, je m'en fous de savoir la technique. Je veux juste que ça soit beau, fin et fluide. Le problème avec ça, c'est que le ray tracing, on l'a un peu évoqué, Swill l'a un peu évoqué, mais c'est des gains de développement énormes. Sur Doom the Dark Ages, ID Tech, les mecs donc, qui développent le jeu, ils ont évoqué pendant une sorte de panel que s'ils avaient dû faire le jeu en rasterisation, c'est-à-dire placer les ombres, les lumières et tout, faire générer un peu donc, leur zone de combat, les cuisiner, faire du baked lighting, ça aurait pris 12 à 18 mois de développement en plus.
Là, ouais, ce qui est énorme.
Ce qui est énorme. Tu prends un an et demi dans la gueule de développement, rien que par rapport au coût aussi, avec les équipes, tout ça. Et là, tu te dis, non, je place ma lumière, c'est dynamique, en temps réel, genre dans la cinématique, je suis en train de mettre en scène, je peux voir si je place tel ou tel PNJ, tel truc, comment ça réagit en termes d'espace, d'effet volumétrique et tout. C'est un gain de temps fou. Donc, pour moi, je suis d'accord que, déjà, le ray tracing, ça va pas bouger. Ça va être l'avenir du jeu vidéo. Deal with it. Genre, il y a à un moment donné, tous les jeux tourneront avec une base de ray tracing, comme Indiana Jones ou Doom the Dark Ages ou Star Wars Outlaws, qui tournent avec une forme de ray tracing de base où, on l'a vu avec la version Switch 2 d'ailleurs, c'est hyper cool, c'est qu'en gros, le jeu est pensé autour de la technologie. Il a différents niveaux de qualité, mais c'est pensé là-dessus. Maintenant, voilà, pour moi, l'IA, pareil, ça va venir. Le seul vrai débat que j'ai, c'est par rapport à la rétrocompatibilité. C'est un truc que disait John Lineman sur Digital Foundry toujours. Mais je trouve ça hyper intéressant qu'il l'évoque, c'est que si tous les jeux qu'on a eu actuellement, ils marchent avec de la rasterisation, c'est-à-dire que sur votre carte graphique, il y a une partie des composants qui est pensée pour faire tourner les jeux de cette façon-là, si à un moment donné, on fait une sorte de pivotement que vers le ray tracing, ça veut dire que les anciennes méthodes de rendu, elles vont être hyper galères à faire tourner. L'exemple à prendre pour ça, c'est Physics de chez Nvidia. Je sais pas si tu vois ce que c'était, Swill.
Le moteur physique ou la technologie?
Ouais, c'est ça. Ça, c'est la technologie, ouais, moteur physics.
Ah oui, oui.
Genre, je sais que sur Mafia 2, Tomb Raider, oui, Batman Arkham et tout, c'est genre, ah, regardez les particules qui volent, les caps qui bougent et tout. C'était le côté un peu, ah bah, l'aspect physique du jeu, justement, qui était géré avec la carte graphique. Les dernières 5000, 60, 70, 80, elles ne supportent plus physics. Donc, si vous jouez à Mirror's Edge, Borderlands 2 ou Mafia 2, qui sont des jeux optimisés physics, tous les effets de particules ou autres, s'ils sont générés et s'ils sont actifs, la carte graphique, genre une 5090, elle tombe à 10 FPS.
Parce qu'elle n'est pas optique pour la technologie. Ouais.
Donc il faut se dire, ça va être pareil entre la rasterisation et le ray tracing, c'est si on fait ce changement-là, qu'est-ce qui va se passer en termes de performance? Est-ce que vous pourrez encore jouer à vos jeux PS4 sur une PS7? Le PS6, je pense que ça va rester rasterisation. Mais tu vois, il faut se dire que dans les prochaines gènes,
15-20 ans,
comment tu vas gérer ça en fait? Ouais, parce que ça sera plus du tout la même méthode. Donc, est-ce que ce sera de l'émulation? Moi, c'est le seul truc qui m'interroge. Parce que si tu penses un jeu pour le côté cross-gen, tu dis ray tracing et rasterisation, c'est-à-dire que c'est le double de ton développement. Si tu fais deux méthodes de rendu, tu fais deux peintures. Mmh. Donc pour moi, c'est ce qui va un peu être le débat dans les années à venir. Mais le ray tracing va être là, c'est sûr.
Ok.
Voilà.
On peut passer au reco ?
Ouais, je pense qu'on va passer au reco.
Là, il nous reste quelques minutes, on peut faire... Si tu veux commencer ? Moi, je sais que j'en ai une. En vrai, j'en ai deux.
Ok.
Tu veux commencer ?
Non, vas-y, vas-y.
Ok. En vrai, si j'avais une seule reco, j'ai un jeu, mais j'ai une autre reco un peu spéciale. Je pense que quand on s'intéresse à... Quand on est passionné de jeux vidéo, pour moi, au bout d'un moment, on arrive à la couche de la technique. Moi, de base, j'étais... Je pense comme pas mal de gens, on tombe amoureux du jeu vidéo pour voilà, le software et tout. C'est amusant, ce genre de choses. Et à un moment, c'est genre quand on creuse, on est obligé de tomber sur la couche de la technique. Et je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée vis-à-vis de ça, c'est de suivre Digital Foundry.
Ah oui.
Franchement, si pour vous, c'est des questions qui sont compliquées, des questions complexes de technique et que ça vous intéresse, et bah, franchement, suivez Digital Foundry, ils font un travail exceptionnel. Faut savoir que c'est vraiment l'une des sources d'inspiration de RNG. Et moi, ils m'ont vraiment appris énormément de choses. Donc, c'est des questions qui sont compliquées. L'aspect technique des jeux vidéo, nous, on est loin d'être des experts, mais ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils le sont. Et vous allez apprendre énormément de choses vis-à-vis de ça. Et en vrai, si vous voulez un jeu, genre vraiment un peu rigolo, malin, hyper cool, qui a quand même, on va dire, la technique au centre de son expérience. Bah, c'est Dreams de chez Media Molecule, studio anglais à qui on doit Sackboy, Little Big Planet tout simplement. On doit Terraway, super, super sympathique, sur PS Vita, je me souviens à l'époque, et sur PS4. Et ils ont sorti en 2020 un jeu qui s'appelle Dreams et qui tourne sur leur moteur maison en fait. Et c'est un jeu en fait communautaire, on va dire entre guillemets à la Roblox et Minecraft. C'est-à-dire où, en fait, les gens peuvent créer des expériences. Eux, ils appellent ça des dreams, en fait. Mais en vrai, c'est des petits jeux, mais il n'y a pas que des jeux, parce que du coup, tu peux faire de l'animation, tu peux faire de la musique. Il y en a, ils font des petits films, en fait. Ils font des courts-métrages. Et en fait, c'est une sorte de petit moteur sur lequel on peut... ça va vraiment super loin, en fait. Où vous pouvez, en fait, créer vos univers et voire même programmer certains éléments du jeu. Ça va vraiment hyper loin et de manière hyper ludique. Ça reste fun, tu vois, faut que ça reste un jeu... C'est-à-dire, il y a des jeux dans le jeu, tu vois. Donc, c'est un jeu où tu fais des jeux. Et mais bon, faut être un peu créatif. C'est pas mon cas, du coup, je suis nul et ça m'ennuie vite. Mais ça vaut grave le détour de juste tester les expériences, les dreams.
Les autres joueurs ont façonné.
Parce que parfois, ils font des trucs de ouf. Il y en a qui essayent d'imiter, par exemple, l'Unreal Engine 5. Je sais qu'il y a eu pas mal de démos d'Unreal Engine 5, je me souviens, c'est genre 2020 et tout. Et il y en a plein qui ont été refaites sur Dream et c'est hyper impressionnant.
Ils font des
jeux qui saccadent. Ouais, voilà. Non, mais tu sais, les démos en mode. Je dirais un peu une sorte de crypte,
ouais.
On dirait un peu un truc à la Uncharted et tout, hyper stylé.
Je vois.
Et genre, ils l'ont recréé sur Dream, et visuellement, c'est impressionnant. C'est vraiment chouette et tout, genre franchement, c'est un petit jeu qui vaut le détour. En plus, tu peux modifier la création des gens, les gens peuvent modifier, il y a un aspect communautaire hyper intéressant, sauf que voilà, ça va plus loin que Roblox, tu fais juste des jeux où tu dois voler des brain rot en fait. Voilà.
Bah moi, mes recommandations... En vrai, il y en aurait deux. Je vais en citer quelques-uns, mais je ne vais pas m'étendre. Parce que pour moi, la technique, ça couvre tellement de sujets, de plateformes aussi, que ça ne veut pas dire la même chose si on parle de technique sur Switch, sur PC, sur console, sur mobile même. Maintenant, moi, je sais qu'un titre auquel là, je pense, si c'est à la pointe de la technologie actuellement, c'est Alan Wake 2. Qui est,
de chez Remedy, vraiment, cette fois.
Ouais, là, de chez Remedy. Qui est offert sur le PS Plus. Essentiel et tout, extra, tout ça. Qui a une bonne version console, mais sur PC, c'est un rendu next-gen. C'est vraiment le jeu avec du path tracing. C'est l'avenir du jeu vidéo, en fait. C'est vous jouez à une sorte de fenêtre, vous dites voilà à quoi peut ressembler, j'entre guillemets, la norme dans quelques années. Et je pense que c'est assez fou. Il y a des jeux, pareil, comme Hellblade 2 sur Unreal 5, qui sont des jeux genre absolument somptueux et tout. Maintenant, il y a aussi genre des jeux. Où la technique, c'est pas forcément être juste le jeu le plus impressionnant, mais où la façon dont ça a été confectionné, je trouve ça assez fou. Je voulais faire un petit shout-out à Cuphead, qui techniquement est assez tourne sur rien, parce que c'est juste des dessins et tout. Mais vous l'avez sur Switch, et c'est magnifique. Comme Papetura, un jeu que m'a offert ma copine, qui est fait à la main, genre c'est tout en papier, et c'est sur Unity. Et c'est pareil, un exemple de création et de créativité, de dire, ah, on peut faire un jeu avec telle méthode de rendu et tout. Et finalement, je voulais aussi citer un autre titre par rapport au son qui était le Dead Space Remake avec le Frostbite. Où je sais plus si le son est géré par ray tracing. Parce que le ray tracing, c'est pas que des éléments visuels, Ça peut être justement bah, le son qui réverbe et qui va aller sur des murs et tout. Et donc à ce moment-là, quand vous avez un casque et vous jouez au remake de Dead Space, je sais que Soul l'avait fini moi aussi.
Waouh!
Ouais, c'est fou. Vraiment, c'est une immersion sonore qui est assez folle. Donc il faut le matériel, genre un petit casque pour au moins se mettre dans les conditions, ou une petite barre de son. Mais jouer au casque, même un casque, je pense, cheap, ça vous mettra ouais, vraiment bien.
Bah écoute, c'était des super recos. Franchement, je pense que la technique, c'est hyper intéressant parce que quand on... C'est le genre de choses où, tu sais, genre, tu t'y intéresses et en fait, t'es émerveillé à quel point tu te dis « Oh purée, je tellement de choses que je comprends pas, en fait. » Et tu sais, ça en devient limite agréable de se dire « Oh purée, il y a des technologies qui vont littéralement paver le futur du ouais. jeu vidéo. » Et ça donne du rêve, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Et je pense que, juste pour un petit mot de la fin, une des frustrations qu'il peut y avoir au niveau des joueurs, et je pense que Swill la partage peut-être, c'est justement vu qu'il y a plein de méthodes de rendu, plein de façons de faire des jeux, je pense que les gens ont un peu tiré à la balle à dire « Ah, tout va ressembler à Unreal Engine ». Et je comprends que ça peut être frustrant quand tu vois des moteurs comme... on n'en a même pas cité, hein, mais ouais, le Decima Engine qui fait donc...
Death Stranding et Horizon.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Le RE Engine de chez Capcom.
Il slap de ouf.
Genre j'hésite, voilà c'est ça, je voulais hésiter, j'hésitais à citer RE4 ou autre, mais c'est des jeux qui tournent tellement bien avec
sur iPhone aussi.
Sur iPhone aussi, oui.
C'est pour vous dire à quel point l'optimisation ouais. C'est exceptionnel aujourd'hui.
Et du coup quand tu vois ces moteurs qui ont des forces et d'autres qui ont des faiblesses, bah, l'Unreal est notamment vis-à-vis du monde ouvert, et à côté vous aurez le moteur Rage de chez
Rockstar
qui gère bah, des mondes de fou et ça tourne super bien. Tu dis, en effet, c'est dommage si on va vers une uniformisation des trucs.
Et surtout quand CD Projekt Red, voilà, quand le fameux moteur, comment il s'appelle déjà le moteur de...
Le Red Engine.
Quand le Red Engine, voilà, qui nous a donné The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, en fait, il y a un côté marque de fabrique avec les moteurs, quand ils appartiennent à des studios. Il y a une pas tout de suite... tu vois, genre, moi, je sais que mon petit chouchou, c'est le Decima Engine, tu vois, genre, j'ai joué à DS2. Et quand je vois DS2, je suis émerveillé. Quand je vois Horizon Forbidden West tourner sur une PS5, je suis totalement émerveillé. Et j'ai hâte de voir ce que va faire de Guerrilla pour leur prochain jeu. Et donc, non, c'est... je rejoins un peu peut-être les gamers. C'est, ouais, quand c'est des projets Craig de signer un contrat avec Epic, à qui appartient l'Unreal Engine pour, voilà, The Witcher 4 va tourner sur Unreal Engine. Il va être magnifique, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense que c'est des projets Red. Ah, peut-être là, c'est dommage. C'est dommage.
D'accord.
C'était RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM, Spotify, Apple Podcast et sur TikTok, on revient, promis. Et voilà, c'était RNG, un plaisir. On se dit à dans un mois, mi-novembre, pour un nouvel épisode.
Ouais, c'est ça, exactement.
Merci Ulysse.
Merci à toi, Swin.
Ciao, bisous.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.